Angle mort 2 décembre. Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, écoutez, je vous ai oublié hier parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Quand tu déménages, hein, veux pas, même si ça a été, je vous ai raconté, ça a été très, très rapide. Mais il reste que là, tout à coup, bing, bang, si ça, patente. Un truc bouscule l'autre, ça prend pas de temps. Petite nouvelle, le fun, en commençant, avant de tomber dans mon sujet. Hier, j'ai... ma formule Patreon, c'est bien intéressant comment ça évolue. Tu sais, au début, c'était une vidéo par semaine, conseils en com, etc. Et puis après ça, c'est tombé en live, parce que je trouve que pour moi, c'est mieux. C'est-à-dire que c'est maintenant tous les mardis à 20h, puis c'est en direct, ben, exclusif aux membres. Mais je faisais à peu près le même contenu. C'est que j'avais une thématique par semaine, un sujet qui était tout le temps... genre, mettons, une de celles qui a bien marché récemment, c'était quand est-ce qu'on dit les choses? Quand est-ce qu'on... C'est quoi le moment pour faire passer son message? C'est-tu quand on veut? C'est-tu quand... Tu sais, comment ça fonctionne et tout ça? Bon, ça... Puis là, tout à coup, j'ai réalisé que il devrait pas avoir de différence entre ce que je fais en direct sur Patreon, dans mon salon, surtout que dans mon nouveau chez moi, c'est cool. T'sais, là, je fais ça dans le salon, je suis plus dans la cuisine. Puis des chefs boilardis, c'est-à-dire ce que je faisais live puis que je vais reprendre quand les salles vont réouvrir. Fait que là, hier, j'avais exactement le même concept, c'est-à-dire qu'on m'a posé des questions avant que l'émission commence. J'ai eu plusieurs questions, j'en ai pris 6. C'était chronométré 10 minutes chaque, comme le concept live. Ça fait que c'était le fun en crime, parce que ça tirait partout, toutes sortes de questions sur plein d'affaires. Puis donc, c'est bien trippant. Ça fait que là, je suis rendu plus enthousiaste que jamais à ce projet-là. Je sais pas, il va pousser vers quel sens, mais c'est bien le fun. C'est vraiment trippant. Puis, tu sais, c'est très personnel. D'abord, c'est fait chez nous. Deuxièmement, c'est des questions que les gens me posent. Ça veut dire que eux autres, ils présupposent qu'ils veulent entendre. Même si c'était hyper varié, on a une question de dating, une question de réorientation professionnelle. Donc, il y avait un côté gérant d'artiste là-dedans que je mêlais. C'est vraiment cool. Ça fait que tout ça sur Patreon. Donc, si vous voulez vous abonner, les forfaits commencent à... J'ai réajusté mes forfaits, ils commencent à 3$. Ça inclut le catalogue, mais il y a des affaires qui ne sont pas incluses. Puis après ça, tu as 5 puis tu as 10. Puis ceux qui étaient déjà inscrits depuis longtemps, bien, eux autres, leur prix ne changera jamais, comme j'ai toujours dit. Puis c'était moins cher que ça. Ça fait que, tu sais, c'est vraiment friendly. Puis la raison pour laquelle j'ai ajusté le prix, c'est que je voyais que j'étais rendu à 7, puis à 7, ça bloquait, de 1. Puis de 2, moi, ce que je veux aussi, c'est monter une armée, puis des gens qui vont venir, quand ça va réouvrir, voir le show live à Québec, puis à Montréal, puis éventuellement ailleurs. Ça fait que, dans le fond, je veux que le prix à l'entrée soit minime, puis qu'éventuellement, tu upgrades pour avoir d'autres stocks, comme les audiobooks, comme les livres en PDF, etc. Okay. Ça fait que c'est le fun. Tu sais, c'est comme, quand tu vois le projet bouger, c'est trippant. Aujourd'hui, je vous parle du retour de Nathalie Normandeau à la radio. Et puis, je fais un lien avec l'article de Yves Boisvert dans La Presse. Puis, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Yves Boisvert, qui a un article qui dit « La peur d'avoir peur », où est-ce qu'il résume tout ça dans un point que je vous ai déjà parlé, anyway, c'est que le fait qu'il y ait des plaintes d'envie, c'est pas grave. C'est d'y obéir qui est grave. Ça fait que ça fait référence aux libraires du Québec qui ont demandé... À François Legault, sa liste de livres qu'il recommande. Puis tout à coup, il y avait un livre de Mathieu Bock-Côté, que j'ai lu d'ailleurs, pour en finir, pas pour en finir, mais le Politically Correct. Ah non, celui-là, je ne l'ai pas lu. J'ai lu son livre, La couverture est jaune, c'est Le multiculturalisme comme religion politique, qui est très, très bon. Puis bon et d'accord, ça peut être deux choses, hein, vous le savez, mais c'est très bon, c'est très précis comme analyse. Alors après, ça peut se défaire si. Moi, je ne suis pas assez spécialiste, mais c'est très intéressant, puis c'est fait par un sociologue d'expérience, hein, ce qu'il est. Alors, très militant, c'est une autre affaire. Puis là, ça fait référence à un autre, l'empire du politically correct, etc., que j'ai pas lu. Puis là, ben, Boisvert, c'est ça qu'il dit. Il dit, ce qui est le fun là-dedans, c'est pas qu'il y a eu une censure ou que quelqu'un ait dit, donne-moi ta liste fait pas mon affaire, ou qu'il y a eu des plaintes. Puis ce bout-là, c'est assez anecdotique. Il dit, ce qui est hot, c'est que finalement, ils se sont rétractés, puis qu'il y a une réponse à ça. Puis je reviens avec sa phrase qui dit « Le problème, c'est pas des gens qui se plaignent dans la vie. Le problème, c'est les gens qui obéissent aux plaintes. » Moi, quand je suis arrivé à testostérone, les plaintes, là, on me les montrait chaque semaine. C'était une pile. Puis ça allait direct au vidange. Parce que en quoi on contrevenait au CRTC? Rien. En quoi on contrevenait aux lois ou aux règlements? Rien. On était irritant pour une clientèle qui était littéralement féminine, plus âgée. Ça s'imitait à peu près à ça. Il y a très peu de gars qui faisaient « Ah, oh, testostérone, c'est épouvantable. » Mais il y avait bien des filles qui étaient, je dirais, mettons, des 40 quelques et plus qui, pour elle, c'était, écoute, ainsi que toutes les féministes affichées médiatiques là, du monde des médias. Puis pour eux autres, j'étais le démon sur Terre, là, tu sais. Puis tu vas dire, puis l'émission marchait à côté, pourquoi? Parce que quand est-ce que les dirigeants à TQS ont fait comme, oh mon Dieu, on a reçu des plaintes, il y a des femmes pas contentes, on s'en fout. C'est tout. C'était pas subversif. C'était juste irritant dans un domaine où le féminisme a pris beaucoup de place dans les médias, puis tu peux pas irriter les filles. Comme j'ai toujours dit, pour qu'une émission de gars fonctionne, elle est pas obligée de plaire aux filles, mais elle peut pas leur déplaire. Donc, tu peux faire une émission de gars que les filles vont dire, on s'en fout de cette émission-là, ça, c'est correct. Mais si tout à coup, tu fais une émission de gars puis les filles l'aiment pas, là, t'es mort. Puis récemment, j'ai pas vu la série Les Mâles avec Christian Bégin, qui passe à Tout TV. Mais il y a eu, bon, deux, trois petits cris là, de féministes qui ont émergé au départ, mais presque rien. Puis il faut croire que c'est écrit avec quand même assez de tact, parce que c'est l'histoire de gars relativement macho, etc. Puis encore là, c'est une fiction. C'est moi où j'ai péché, c'est que je faisais par exprès pour avoir aucun personnage, pas de perruque, pas changer mon nom. C'était Marc Boilard, tu sais. Puis là, c'était comme, oh mon Dieu, tandis que là, on sait bien que c'est un téléroman avec des personnages, puis un qui joue tel rôle, etc. Ça fait que là, tu sais, ça réussit grâce à l'aspect fiction à passer. Mais si c'était un documentaire sur des gars qui sont même dans la vraie vie, ils diraient la même affaire. C'est ça que j'ai toujours trouvé épouvantable. C'est que tout ce que j'ai dit, si je l'avais dit mot à mot en personnage, on vous en avez la preuve avec Les Mâles. Vous en avez exactement la preuve. Ça aurait passé. Ça aurait été comme, oh, il est malade, Boilard, avec son personnage de Martin Ballard, le macho, là, tu sais. Là, tu fais, mais il dit exactement la même chose. Juste parce qu'il est déguisé, vous le prenez comme une exagération. Puis quand j'exagère pour vrai en moi-même, là, ça passe pas. C'est ça que Boisvert, il dit, en substance, avec lequel je suis super d'accord. C'est comme la plainte comme telle, elle existe, correct. Et eux autres aussi ont la liberté d'expression. Moi, j'en ai pas contre les gens qui se plaignent, ne me dérange pas. Mais c'est contre les gens qui leur obéissent. C'est où le courage là-dedans, là, tu sais. Courage, fuyons, comme j'ai déjà entendu, c'est très drôle. Ça fait que ça a rapport avec Nathalie Normando, parce que Nathalie Normando, moi, je connais bien l'histoire. Elle est arrivée à l'initiative de Pierre Martineau, qui l'a ramenée, dans le fond, parce que lui-même est rendu à Montréal depuis un peu moins qu'un an. Il était, à l'époque, le directeur des programmes du 93 au Québec, où je travaille chaque jour avec Bouchard. Et puis, il invente en secret. Moi, je connais toute l'histoire. Là. Ils avaient fait se rencontrer dans un restaurant. Puis, ils avaient fait un genre de pilote, je pense, etc. Tout ça très, très, très en secret. Et puis, tout à coup, grande nouvelle, nouvelle émission le midi, Normando Duhem. Normando sortait de la politique, avait jamais fait de radio de sa vie. Puis, Éric était plus connu parce qu'il avait bourlingué d'une radio à Choix puis au 93. Et l'émission a été un fracas de code d'écoute. Ça a marché l'enfer. Auprès d'un public vieux, il faut dire les vraies choses. C'était pas un public de jeunes, c'était pas pantoute 25-54. Mais je dirais que dans les chiffres plus âgés, ça avait marché là, du feu du diable. Donc, cette émission-là a amené le 93 très haut. D'ailleurs, m'a empêché d'avoir l'émission du MID, parce qu'à cette époque-là, José Arsenault était toute seule. Puis j'étais pressenti pour ramasser l'émission. Puis quand Normando Duhem est arrivé en onde, ça a amené toute la station vers en haut, dont elle. Ça fait que ses chiffres, au lieu de stagner ou descendre, comme c'était le cas depuis quelque temps, sont mis à monter. Ça fait que tu fais comme, ouais. Dire à quelqu'un, OK, ciao, bye. Mais encore là, tu sais, on comprenait pourquoi. Ça fait que bref. Puis là, après ça, Maillot est arrivé, puis ils ont fait une ride de 5 ans, je dirais, où moi, j'étais, quand eux autres n'étaient pas en onde, moi, je prenais cette case horaire-là avec Bois-Lorraine. Fait que l'histoire, c'est carrément ça. Puis là, ben, à un moment donné, en pleine émission, la police arrive, ramasse Normando, tout le monde est sur le cul, Duhem, qu'est-ce que je fais? C'était vraiment élevé. Et là, il s'est passé la saga qu'on connaît, qui a duré, je pense, 5 ans, ou qui a duré entre 3 et 5 ans, là, c'est pas clair. Ou est-ce que il y a pas de preuves, il y a pas de procès, tout à coup, on laisse tomber des accusations, puis finalement, l'arrêt Jordan rentre là-dedans en disant, ben là, maintenant, c'est comme si vous êtes où, là? Vous l'accusez de quoi? Basé sur quoi? C'est quoi? Elle a toujours dit, j'en veux un procès tant qu'à faire. Moi, je vais aller le dire, la vraie affaire, puis vous me montrerez vos preuves. Comme quoi, j'ai fait de la corruption, tu sais. Fait que moi, je suis obligé de la croire. C'est comme si c'est des accusations basées sur n'importe quoi. C'est comme Trump avec ses élections. C'est comme, ah, il y a une fraude. Une fraude où? De quoi? Montre-moi, ben, il faut que tu... Tu peux pas juste dire ça, puis dire, ah, ben, c'est correct. Moi, je viens de vous dire ça, c'est assez. Ben non, ça marche pas de même. Ça fait que pour moi, Nathalie Normando est complètement innocente de tout. Est-ce que dans la vraie vie, c'est le cas? Je peux pas vous le garantir. Je suis pas dans ses souliers. Mais aux vues et gestes de tout l'aspect juridique autour de ça, il n'y a rien qui a été démontré, c'est tout. Puis je veux dire, tu te dis, calvaire, si on avait eu des preuves, pourquoi s'arrêter long de même? C'est un calvaire, là, cette fille-là, pendant ce temps-là, elle avait pas d'emploi, elle avait rien. Personne ne pouvait la... Ça fait que bravo à Martineau de l'avoir ramenée, parce qu'évidemment, il y a du monde qui vont mourir en se disant qu'elle est coupable, c'est une politicienne corrompue, parce que tous les politiciens sont épouvantables. Puis c'est un parfait exemple, ce qui vient d'arriver au 98.5 aujourd'hui, qu'à quelque part, les plaintes, ben on leur obéit ou pas. C'est pas une injonction, c'est pas une mise en demeure, puis après ça, un procès de dire « vous avez pas écouté mes plaintes ». Une plainte, ça fait partie de la liberté d'expression, les gens ont le droit de se plaindre. Du monde peuvent texter là en disant « moi, j'aime pas Bouchard, Boilard pas capable ». Tout le monde a le droit de faire ça. Le problème, c'est quand quelqu'un doit décider, qui se met à obéir à ça en disant « ah, oh, tabarouette, on vient de recevoir des plaintes, là, ça veut dire que c'est épouvantable ». C'est quoi cette affaire-là? Ça marche pas de même. Walmart, le monde, il y en a qui se plaignent. Costco, il y en a qui vont dire « je suis pas content, il y a le beurre de peanut qui est plus là ». Et est-ce que Costco arrête sa business? Est-ce qu'il dit « on claire tout le monde »? C'est n'importe quoi. Ça fait que chapeau au retour de Nathalie Normando, qui était effectivement, en termes de communication, moi, je ne l'ai pas beaucoup écouté, là, j'écoute pas bien la radio. C'est drôle, hein, j'en fais, mais je n'écoute pas. Mais je l'avais entendu à un moment donné, quand elle animait le retour à Boulevard à Québec, puis j'avais vraiment fait comme « OK, elle marche ». Puis j'avais entendu quelques débats sur la Gaspésie, notamment, ou autre, avec Éric. Puis que c'était solide. Là, tu sais, la fille est de très haut niveau. Moi, j'adorerais ça, travailler avec elle, faire ce qu'elle va faire, c'est-à-dire qu'il va y avoir la commission Normando-Ferrandez. C'est que si on pouvait avoir un Normando-Boilard, ce serait écœurant. Mais on est peut-être un peu trop de ces mêmes allégeances. Moi, j'ai l'impression que mon discours ressemble beaucoup à celui de Nathalie. Ça fait que ce serait peut-être pas aussi clashant que moi et Éric, ou est-ce que c'était vraiment le fun parce que là, on arrivait, comme d'ailleurs elle et Éric. Donc, les deux, on a été co-animateurs avec Éric Duhaime. Puis c'était vraiment trippant. Dans les deux cas, ça a été des bonnes expériences, là, manifestement, puis ça marchait. Ça fait que, donc, c'est ça. Juste pour vous dire que je reviens peut-être souvent avec ça, mais d'un côté, moi, j'ai toujours trouvé que j'ai payé bien trop cher le prix d'offenser une certaine clientèle. Puis ça, c'est l'autre affaire aussi qu'il faut voir. C'est que le poids des plaintes change selon c'est qui t'offense puis leur poids dans la société. Si t'offenses des féministes, t'as vraiment aucune chance. C'est-à-dire que s'il y a 10 personnes autour d'une table, dont une qui est très féministe, puis qu'il y en a 9 qui disent « Hey, ça, c'est bon, on va engager Marc Boilard, ça va être super bon », puis qu'elle a dit « Marc Boilard, je suis pas capable », elle gagne sur les 9 autres. Mais dans d'autres cas, c'est pas pareil. Et dans le cas de Normando, je pense que c'est ce qui vient d'arriver. C'est-à-dire qu'elle a offensé personne, sauf des gens qui sont convaincus qu'elle est coupable. Ça fait que c'est pas socialement mal vu. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ou du moins, c'est pas médiatiquement mal vu. C'est-à-dire qu'on est capable, au final, de faire comme Martineau a fait, de dire « Mais savez-vous quoi, vous allez vous plaindre, mais anyway, à un moment donné, ça va arrêter de crier, puis nous autres, on le sait qu'elle est bonne. » Parce que c'est ça la job d'un directeur des programmes. C'est pas d'être un VP plainte. C'est pas d'être responsable de « Il n'y a pas de plainte chez nous. Il n'y a peut-être pas de plainte, mais il n'y a pas de code d'écoute non plus. » Un directeur des programmes, sa job, c'est de dire quoi que ce soit que les chiffres disent, un vrai, quoi que ce soit que les chiffres disent, quoi que ce soit, moi, je pense que cette personne-là va attirer des codes d'écoute. C'est pas « j'ai fait mes études, j'ai regardé les chiffres ». Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas toujours voler aux instruments. Un vrai expert, c'est pas quelqu'un qui dit « j'ai regardé les données, puis grâce aux données, voici ce que je décide ». Il y a tout le temps des affaires qui se mesurent mal. Rappelez-vous tout le temps de cette phrase-là, « ce qui se mesure bien est pas plus important que ce qui se mesure mal ». Ça fait qu'à un moment donné, je vais vous donner un autre exemple. Si tu écoutes le contenu en reprise du Doc Mayou, c'est tout le temps extrêmement fort sur les réécoutes. C'est extrêmement fort. C'est-à-dire, Mayou, lui, ce qu'il dit, mettons, à radio, tu prends cet extrait-là, tu prends un 3, 4, 5 minutes, puis tu mets ça sur le site de Cogeco, tu vas avoir plein de réécoutes. Parce que c'est sensationnel, parce qu'il frappe dans le tas, parce que c'est polémique, etc. Tu prends un autre qui fait une émission super populaire, mais dont le... Je prends l'exemple de moi, quand je faisais ma ligne ouverte. J'ai pas de chiffre de réécoute, mais je le sais, parce que je juge que je suis un expert, qu'il y en avait peu. C'est-à-dire que tu réécoutes pas ça, une ligne ouverte. T'écoutes une ligne ouverte parce que t'aimes ce qui se passe ici maintenant, un peu comme quand t'écoutes du sport, t'écoutes pas ça en différé. Puis t'aimes l'animateur, ses interactions, tu trouves que tout à coup, il arrive plein d'affaires. Mais c'est pas du stock que tu vas réécouter parce que tu vas entendre un contenu particulièrement très précis à tel moment. Comprenez-vous ce que je veux dire? Sauf que Moi, j'ai jamais eu de code d'écoute dans cette émission-là. J'en ai eu comme co-animateur. Je vais en avoir au mois de juin en tant que chroniqueur. Mais j'étais tout le temps dans des périodes à l'époque qui n'étaient pas sondées. Mais je les voyais, les réactions. Je n'ai jamais eu autant de ma vie. Ça n'arrêtait pas. C'était même le week-end, quand je n'étais pas en onde. Le monde m'écrivait en disant « Hey, ton émission, là, ça marchait à mort, cette émission-là. » Mais je sais que Mayou avait des réécoutes qui me torchaient totalement. Mais si un jour où, à l'époque, on pouvait avoir carrément des codes d'écoute de telle période dans l'année, bien là, on pourrait voir que, ah, c'est drôle, les réécoutes sur un site Internet ne sont pas tributaires littéralement des codes d'écoute live. Comprenez-vous? C'est très... Alors, c'est là que l'expertise rentre en ligne de compte. Un expert ne va pas juste dire « voici des chiffres, voici des chiffres, voici des chiffres ». Il va mettre ça dans son contexte. Et ça ne se mesure plus, ce rendu-là. Tu ne peux plus dire, par une mesure, c'est quoi le type de contenu qui attire l'attention sur tel type de plateforme. Là, là, vous rentrez dans de l'expertise totale, complète. Ça s'appelle avoir du jugement. Puis, tu peux pas juste dire que c'est les plaintes qui décident de tes décisions, puis que là, mon Dieu, il y a des plaintes ou whatever. Hier, j'ai parlé avec un de mes chums qui me disait qu'est-ce qu'il écoutait à la radio maintenant, parce que je demande souvent ça aux gens, tu sais. Puis, il me dit, ah, je suis rendu à la radio sport, je suis rendu au 91.9. J'écoute radio sport, écoute, les chroniqueurs sont malades, blablabla. Moi, j'écoute pas ça, là, mais. Puis, j'ai dit, hey, toi, t'as écouté toute ta vie Radio Can, un gars de 54, là. Il dit, oh, ils m'ont perdu. Ils m'ont perdu. Il dit, Masbourian, il dit, c'est correct, tu sais, mais je veux dire, il est-tu plus coloré que Gravel? Non. Il est plus jeune, mais il est dans les lieux communs au bout, tu sais. Puis, fait que tu vois, ils ont un fan, un gars qui était vraiment un crinqué, qui n'écoutait que Radio Can tout le temps, il s'intonisait à peu près rien d'autre, bien, il est rendu une radio sport parce qu'il trouve que c'est devenu incolore. Puis ça, ça guette, entre autres, Radio-Canada, parce qu'effectivement, moi, j'ai toujours prétendu qu'à part TVA, qu'il y a une recette vraiment, tu sais, très conviviale, très Disney World, ne pas déranger. Puis encore, tu vois, ils essayent des trucs de télé-réalité et autres pour se rajeunir. Bien, je pense que tous les autres médias sont obligés d'avoir une saveur. Ah, en passant, un mot sur la salle des nouvelles de Nouveau, donc l'ancien V, qui est l'ancien TQS, je ne sais pas si ça va changer de nom encore. Puis je trouve vraiment les quatre personnes qui sont là... Bien, d'abord, Belle, j'en ai déjà parlé, j'ai que des félicitations à leur faire. Je ne sais pas exactement qui est à la tête de ça et où, mais au niveau télé, entre autres, là, ils l'ont à côté. Tout est fresh, c'est moderne, ils visent les jeunes, le casting est top. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une télé qui savait ce qu'elle faisait pour atteindre sa cible. Puis là, ben c'est Naomi Mercier, Marie-Lise Blais, Mickey Guerrier, puis un autre que je connaissais pas qui était à RDI. Ça fait que c'est tout du monde qui ont une bonne bouille, qui ont l'air d'être pertinents, qui connaissent leur affaire, je trouve qu'ils ont fait un casting. Puis là, ils annoncent que c'est eux autres qui vont être les chefs de nouvelles, donc... Guerrier, on sait que ça va être au sport. Les autres, ça va être à... Ça fait que je m'attends à vraiment là, un genre de... Je m'attends à quelque chose qui va être qualité puis qui va être rafraîchi au niveau de c'est quoi les nouvelles à ce poste-là, à nouveau. Ça fait que je trouve que ça regarde bien. Il va avoir... À Québec, je pense qu'aussi qu'il va avoir de la place pour du contenu local. Je sais pas, je trouve que ça donne le goût. Ça donne vraiment le goût. C'est bien cool. Fait qu'en tout cas, ça fait qu'aujourd'hui, c'était ça que je voulais vous parler. Puis, marcboiler.com pour l'ensemble de l'œuvre. Et à bientôt.